Salut!
Vous êtes en direct du camp Action Climat, ici quelques personnes des équipes du Zoom Écologie. On est sous la tente Automédia et on avait envie de vous faire une super émission sympa en direct du camp Action Climat. Alors, le camp Action Climat, qui c'est qui me raconte ce que c'est?
Je sais pas, c'est quoi d'ailleurs?
C'est
pourquoi
quoi
on est là en fait?
Qu'est-ce qu'on fout?
Ah oui?
Alors, ouais, on est sous l'automédia déjà, donc on fait nos propres médias au camp Action Climat, on peut au moins vous dire ça, on a participé à ça, et là on est en train de le faire. Le camp Action Climat, c'est quoi? Bah, c'est une bande d'énergumènes, d'individus qui se sont mis en collectif pour se dire, tiens, on va tester un mode de vie autogéré, on va tout décéder au consensus, et puis on va en profiter pour lutter contre un crime climatique. Et l'année dernière, c'était l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, cette année, on est là pour la raffinerie du Havre de Total.
Et à l'origine, l'Action Climat, ça a commencé en Angleterre,
ouais.
Dans le sud de l'Angleterre, pour combattre le projet du 4e aéroport de Londres. Et ils ont gagné, je crois, non?
Ils ont gagné assez récemment.
Et donc, l'idée de l'Action Climat, ça a été exportée en France. L'année dernière, c'était la première. Donc,
mais
à
aussi
Nantes.
En Belgique, en ce moment même, d'ailleurs.
Et voilà, c'est la première fois que je participe. Et toi, Khaled?
Alors moi, je participe à tout ce que vous voulez, quand vous voulez. Donc, de toute façon, le camp Action Climat, on est là pour lutter pour la justice climatique surtout. On prend une grande partie aussi pour changer de système et non pas le climat. Donc voilà, quoi, ça va être ce qu'on m'a raconté tout à l'heure.
Le mot d'ordre de cette année, c'est arrêt total. Et arrêt total, pourquoi? Et pourquoi on est au Havre? Cette année, on est au Havre. On est là pour lutter contre la raffinerie totale du Havre, qui est le troisième site en France le plus émetteur de CO2. Et bah, sur ces bonnes paroles, on va vous laisser avec un petit plan de l'émission. Donc vous allez tout de suite entendre un cher monsieur de Total qui va nous raconter un petit peu comment ça se passe chez lui. On vous laisse avec ça. Et après, dans la seconde partie de l'émission, vous aurez un peu comment on s'organise avec plein d'interviews, plein de moments fun et plein de moments très vivants. Prise de son en direct, quasi en direct.
On n'est pas vraiment en direct.
Bon, d'accord.
C'est Zoom Écologie sur 106.3 FM. Et d'ailleurs, ici, sur 106.3 FM, on a la radio locale du camp climat.
Pirate.
Oui. On a parlé tout à l'heure d'automédia. Donc ici, donc, tout est autogéré justement donc, au niveau des médias en interne. On fait nous-mêmes nos médias. On ne fait pas les médias. On devient nous-mêmes les médias. Et ça, c'est assez important de le répéter. On met tous nos enregistrements en commun. Et on va les diffuser aussi donc, sur 106.4. Donc la radio camp climat. Et là aujourd'hui sur 6.3, mais
ouais,
on va les écouter après. Et aussi sur le camp.
Allez, sur ces bonnes paroles, on vous laisse kiffer bien. Salut.
C'est pas au clair, hein, c'est pas
au clair. On va encore prêt pour le zénith.
Tu nous allais juste.
Mais à la fin, on boucle le départ ou
Votre question.
Attends, mettez-vous d'accord avant. À la fin.
On
boucle le départ.
À la fin, on recommence à zéro.
On recommence à zéro. Deux fois l'année.
Vas-y toi.
3 et 4. Et bien, je
tu as travaillé donc à l'usine où tu travailles, à l'usine Total. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement donc de ce qui s'y passe en fait au niveau de la sécurité, déjà, enfin au niveau des travailleurs,
ouais.
De ce qui se passait avant déjà,
oui,
au niveau des travailleurs et aujourd'hui, des changements qu'il y a eu,
tout à fait.
Des choses comme ça au niveau de la sécurité aussi, ouais. Parce que c'est quand même une usine où il y a pas mal de choses qui sont enfin au niveau du risque de la population autour.
Tout à fait.
Donc, vas-y.
La première chose, c'est quand on rentre dans une usine comme ça, on sait qu'on est vivant. Ce qui serait bien, c'est de ressortir vivant aussi. Et quand on rentre dans une usine comme ça, on a tous ça dans l'esprit. C'est pas... Dès qu'il y a une petite odeur de graisse dans l'air, aussitôt, les oreilles se pointent, les narines aussi, savoir d'où ça vient. Donc, en fait, le risque... Il faudrait plutôt parler d'une dangerosité. Quelque chose est d'autant plus dangereux qu'on ignore comment ça fonctionne et ce qui est, comment dire, ce qui est en jeu. C'est tout con, mais dans la vie de tous les jours, une bonne vieille friteuse sur un brûleur à gaz, ça peut devenir un danger public. Donc dans une usine comme ça, très tôt, enfin notre génération, je parle les quinquagénaires, on est formé à tous les risques qu'il peut y avoir dans une usine. Donc, qu'ils soient électriques, chimiques. Donc, il y en a, effectivement.
Est-ce que quel type de travail il y a en fait dans l'usine déjà, par exemple? Tu peux nous citer quelques exemples
type de travail?
Oui, justement, sur lesquels vous avez été.
Déjà, comment ça marche une usine comme ça? Mais en deux mots, c'est infernal. Comment ça marche? Il y a du nafta qui rentre d'un côté. Donc c'est un pétrole allégé,
ouais.
Il n'y a pas de bitume dedans, c'est la raffinerie qui se débrouille avec. Et à la sortie de cette chaîne, ce qu'on récupère, c'est du gaz. Donc essentiellement éthylène, propylène. Et la deuxième partie de cette usine transforme l'éthylène et le propylène en plastique, en solide. Transforme le gaz en solide. Donc c'est assez magique quand même comme phénomène. Si on part d'un gaz pour arriver au plastique de tous les jours avec la moquette, tu vois.
Donc ça, c'est le côté total chemical.
C'est la vie de tous les jours. C'est sous forme de granulés. Puis les granulés vont partir pour fabriquer les. Faut pas citer les marques, mais Tupperware, les bacs à bouffe, les emballages aussi. Sachant que l'industriel s'adapte, à partir du moment où on dit qu'il n'y a plus d'emballage, ce qu'il va falloir fabriquer, c'est les tuyaux que vous utilisez pour amener l'eau ici. Hein.
Ouais.
C'est tout con, mais c'est tant pis pour les emballages parce que ça, c'est jetable. Donc à l'époque, c'était quand même c'est une petite usine, mais c'est 3000 tonnes en 4 heures quand même, hein, produit d'éthylène. Ah oui. Hein. Enfin, c'était 3000, je ne sais pas combien ils sont tout de suite, mais c'est énorme. Hein. Et c'est une toute petite usine, j'insiste, genre, une petite. Sinon, point de vue sécurité, donc on a eu deux collègues qui se sont décédés l'année dernière. Tout le monde en parle. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel pépin il y a eu? C'était à Carlin, il y a eu une explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut absolument savoir ce qui s'est fait ou pas fait, justement. Là, on est très soucieux du moindre pépin qui puisse arriver dans ces lieux-là. Alors, si je reviens donc à la... Parce que là, je me disperse un peu. Donc, la production, c'est en fait, c'est des pompes. Hein. C'est vraiment tout con comme système. Hein. Il y a un liquide qui arrive d'un côté. On va le craquer dans des fours. Et puis après, il y a des colonnes de distillation. On va en tirer des gaz. À moins 110 degrés, quelque chose comme ça. Et ces gaz sont transformés en plastique. Donc, en fait, c'est une usine où on voit défiler du... On regarde sur des écrans. Parce que je les programme. On regarde sur les écrans les débits, produits, sachant que chaque intervention, quelle que soit l'intervention qu'il y a sur unité, on a des règles vraiment très strictes. Il n'est pas question de faire certaines manips alors qu'il y a les gars qui sont sur le terrain. Il y a des systèmes, c'est une chose que les gens ne connaissent pas, mais une autorisation de travailler. Ben moi, il faut que je remplisse un papier, pas possible, et c'est une autorisation de travailler. Si je ne l'ai pas rempli avec les 4 signatures qui sont dedans, nécessaire et obligatoire, eh bien, je ne peux pas travailler. Et en fait, on va passer un bon quart de notre temps à faire ces papiers-là, et ça, c'est fondamental, avant de pouvoir commencer à sortir un tournevis. C'est un univers très, très contrôlé. Alors ça, c'est l'aspect, l'aspect du quotidien. Quelle que soit la manip, la modif informatique, les interventions, je ne sais pas, de mécanique ou de tuyauterie, systématiquement, il y aura vérification que les tuyaux sont bien dégazés, il y a tout un processus très strict qui est maintenant mis sous forme de procédure. Mais en fait, la procédure est un avantage et un inconvénient. C'est qu'on pensait à une époque qu'on pouvait tout mettre dans les procédures. C'est tout bête, hein. On dit, il suffit d'écrire ce que vous faites. Les gens l'ont écrit. Le seul hic là-dedans, c'est que tout n'est pas notable dans une procédure. Alors ça, c'est un petit problème. Et la jeune génération, alors l'ancienne génération, si j'en reviens à l'ancienne, moi, avant d'être informaticien, j'ai passé un an à cavaler dans l'unité, à changer les appareils en haut des tours. Ça a l'air de rien, mais quand on regarde là-bas, il y a les petites colonnes.
Ouais.
Les jours où il y a du vent, quand on est en haut, en fait, la colonne, elle suit le vent comme ça. C'est souple. C'est comme un roseau. Jamais passé. Par contre, quand on est en haut, en train d'essayer de régler un truc, putain, on les a comme ça. On n'y va pas pour se balader là-dedans. Hein. Ensuite, au point de vue sécurité, donc on est tous très attentifs. C'est-à-dire, n'importe quelle lampe de poche est interdite de séjour dans un endroit comme ça. Il faut systématiquement, lorsque je viens de vous montrer ce qu'on appelle une lampe anti-déflagrante, tout est en anti-déflagrant là-bas. Sauf certaines zones où il n'y a pas d'hydrocarbures, donc là, on peut y aller tranquille. Mais c'est ni plus ni moins, il y a un truc qui est rigolo dans nos... Parce qu'on a des stages, bien évidemment, sécurité. Et dans les stages sécurité, on montre les endroits où il y a des pépins. Et où on trouve des endroits où il y a des pépins, rarement en usine, très peu. Mais dans les stations-service, pour les personnes qui font le plein d'essence, oui, il y en a beaucoup. Et il y a un truc tout bête, quand on fait le plein d'essence d'une voiture, il n'y a pas besoin, de jamais fumer. Donc, mais j'ai vu des gens aux pompes à essence avec la clope au bec en train de faire le plein. Ça, dans une usine, c'est hors de question, un machin pareil. Et nous, on a tous des vêtements en coton. Mais c'est pas par hasard que je prends toujours du coton aussi. Avoir des vêtements en tergal ou nylon quand on fait le plein d'essence, c'est un truc tout bête, hein. Mais l'électricité statique, ça fait flasher. Et c'est méchant. Hein. Ah, ça prend feu et puis drôlement bien. Donc, là, le film qu'on avait vu, c'était rigolo. Elle a laissé la. La poignée de remplissage, puis la personne s'est barrée. Bon, c'est la vie de tous les jours pour nous. C'est exceptionnel pour monsieur et madame tout le monde. Mais à partir du moment où on connaît les risques, où on les. Gérer, j'aime pas le terme, parce que gérer, c'est technocrate comme truc. À partir du moment où les gens sont conscients des risques qu'ils prennent, dire ces usines-là, ça marche sans problème. Mmh. Où ça va commencer à se barrer un peu en vrille, cette affaire? On a un exemple qui, je trouve, terrifiant, c'est BP tout de suite, la plateforme.
Ouais.
En fait, tout y est de ce qu'il ne faut pas faire. Et là, à ce moment-là, c'est un témoignage qu'on trouve dans le monde, partout. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens, il y a un terme, ça s'appelle bypasser les sécurités. Donc on crée des algorithmes, enfin des algorithmes, des équations mathématiques,
ouais,
pour surveiller un paramètre un peu complexe. Et ça a un défaut, ce truc-là, c'est que ça a tendance à sonner alors qu'il n'y a rien. Donc ça, il y a certains opérateurs, ça les fatigue, ils ont envie de dormir. Crac, ils vont avoir tendance à les chanter, à les annuler. Sauf que le jour où il y a vraiment un pépin, c'est pas de bol, ça fait tilt. Et là, ça a fait tilt. Et sur BP, il y a un truc aussi, un témoignage qui est vachement important, c'est que BP a, parce qu'on retrouve bien évidemment le même phénomène ici dans les raffineries et dans les usines en général en France d'ailleurs, hein, c'est que ils ont supprimé les niveaux hiérarchiques. La grande idée, c'est que une hiérarchie, ça sert à rien. C'est des gens qui regardent, c'est des branleurs, des feignants. Allez, pff, tout ce monde-là du balai. Ils gagnent très cher et puis en plus, ils font chier le monde. Allez, pff, du vent. Dans le même temps, en même temps qu'on vire les hiérarchies, on vire les quinquagénaires. Ceux qui ont ce savoir particulier, disant, ouais, minute, hein, les fixations de câbles, hein, pas comme ça. Hein. Puis les tuyaux là-bas, non, ça c'est des économies de chandelle, pas de ça. Donc les quinquagénaires, on les jarte, et puis on les remplace par, il y a quand même une embauche un peu particulière, par des gens dociles. Et ça, dans le cas de BP Chimie, ça a été dit très bien sur la plateforme, les jeunes qui étaient là, une fois, ils appuyaient sur leur bouton, ils creusaient leur trou, bon. Il y aurait eu des anciens qui auraient entendu, parce qu'ils travaillent, les gars, l'ancienne génération travaillait à l'oreille aussi. Ils écoutent les bruits des moteurs, ils écoutent les bruits dans les tuyaux. La nouvelle génération, ils regardent leur écran, c'est bon, ça clignote pas en rouge, c'est bon, quand c'est en rouge, bon, on va un petit peu s'inquiéter. Mais tant que c'est pas en rouge, basta. Mais j'insiste bien en rouge, c'est stupide comme phrase. Hein. Et là, effectivement, on peut aller vers des catastrophes. Et ce qui est dommage, c'est que, en fait, quand BP a dit, voilà, j'ai pu supprimer ce qu'on appelle les frais fixes, c'est la masse salariale, puis la baisser de je ne sais pas combien de pourcents, tout le monde applaudit en disant c'est formidable. Donc toutes les autres entreprises ont fait la même chose. Exxon, Total, voilà, ils ont réussi à diviser leur personnel et nous aussi. Puis ils n'ont pas de pépins, ça arrive à marcher, quand il y en a un, ils arrivent à étouffer le. Allez hop, allons-y aussi. Ouais, sauf que, il va falloir que BP révise sa copie là. Parce que, en fait, ça fait une quinzaine d'années que ce processus est en marche. C'est pas nouveau du tout. C'est même plutôt ancien. L'idée de faire jarter les vieux, les pré-retraites, c'est d'abord pour ça. Mettre des jeunes auxquels on va pouvoir donner des charges de travail plus élevées.
Ouais.
Plus élevées, mais attention, si les anciens ne voulaient pas le faire, on les a traités de feignants. Enfin, c'est la technique en France. Hein. Quand on veut réorganiser quelque chose, on dit c'est une bande de feignants. Donc on trouve ça à l'hôpital. L'hôpital, c'était plein de feignants. Allez, crac, on a ratatiné la moitié du personnel, puis on s'aperçoit que ça ne marche plus.
Je dis, c'était à l'hôpital.
L'hôpital, donc le système hospitalier, si tu préfères. Hein. Les profs, tout à fait. Hein. C'est tous des branleurs, c'est tous des feignants. Ça peut être très vulgaire. Allez, il faut diviser par deux, c'est la théorie du mammouth, là, c'est dramatique. C'est pas des gens faibles, c'est pas des gens... parce que tout a été dit à cette époque. Ils ont même essayé de faire une étude post-mortem, de dire, ça y est, ils sont décédés, mais on va faire une enquête une fois décédés pour savoir ce qui s'est passé. Non, je suis désolé, c'est du vivant, de la personne qu'on fait l'enquête, pas après. Puis tout le monde a avalé ça, mais... Tout le monde a dit oui, j'ai vu aucun article s'opposant à cette espèce de raisonnement à la con. C'est un gros souci parce que cette méthodologie de management est une façon de maltraiter l'être humain qui, je trouve, est terrible. Et le pire de l'histoire, c'est que les gens s'y font en disant je vais avoir évaluation, je vais être évalué, on va dire ce que je veux. Bon, non. Ah. La réponse, c'est non. Il y en a qui vont mourir, ouais. Il n'y a pas de souci.
C'est générateur de mal-être.
Ouais. Il y a un mal-être, en plus il est fondamental. notre vieille génération là, on est quand même satisfait du travail fait, de la qualité du travail fait. C'était rigolo parce que c'est ce qui était en jeu pour le pied de l'éolienne. Là. On voulait qu'il soit nickel, Christian qui a bien bossé, mais là c'est un boulot propre. Et c'est un boulot propre où ça apporte à la personne une satisfaction en tant que. Elle n'est pas. Comment dire.
C'est matériel.
On pourrait la dire superficielle, non, elle est fondamentale. On a besoin, nous, êtres humains, de. D'aller jusqu'à un certain point, de réaliser des choses et. D'être. Comment dire. Ça va, c'est plus que rassuré, hein. Ça crée vraiment une... Ça assume bien l'identité de la personne, là. C'est la place qu'elle occupe dans la société. Je parle sociale. À partir du moment où ça devient un numéro dont on fait une évaluation par espèce de guignol, on ne sait pas ce qu'il vaut, lui, Toto, ou elle, c'est un gros souci, à ce moment-là. C'est que ça devient... L'être humain devient le jouet d'un autre, il faut le savoir. Les effets sont dramatiques. Alors, je ne sais pas comment la nouvelle génération dont vous faites partie. Alors, moi, je suis content d'être là parce que je vois une nouvelle génération qui se réveille. Parce que j'ai vu une nouvelle génération qui roupillait un peu, je trouvais. Bon, une nouvelle génération éveillée, moi, ça me va bien. Comment vous allez vous débrouiller ce qui est en train de s'installer, ça, c'est vraiment...
Il y a un truc qui me pose un peu problème dans la discussion, par exemple.
Ouais, vas-y.
Avec le travail bien fait, voilà, je suis d'accord. Par contre, c'est quelle production on fait derrière, quoi, aussi, et quel impact ça a. Parce que je sais pas, faire pousser des bons légumes, ouais, ça m'intéresse. Mais ouais. Après, fabriquer une belle tête nucléaire, ça m'intéresse un peu moins. Enfin, ouais. Disons que je vois que ça me choque un peu.
Oui. Oui. Alors, c'est là où l'être humain il est comme ça. Il y a ceux qui sont très fiers de faire marcher un moteur qui fait, je ne sais pas moi, combien de mégawatts, là, et puis ça va tourner comme une horloge. Il y en a d'autres qui vont être très contents de réaliser une montre qui se remonte super bien. Ou je ne sais pas moi, des légumes. Alors si on parle légumes et culture, tous ceux qui sont passionnés des tomates de bonne qualité, là, qui ont un arôme, ça, c'est le propre de l'humain. À distinguer de l'humain, ce qu'on appelle le petit soldat, dont la fâcheuse tendance est d'exécuter les ordres, aussi noir soit-il. Ça, je parle pas de cela. Je n'ai pas abordé ce sujet-là tout de suite. Mais ça existe, oui. Les mecs qui ont pris certaines décisions sur cette fameuse plateforme BP, à mon avis, sont suffisamment intelligents pour savoir qu'ils prenaient de gros risques. Parce que tout ça, ça se sait. Hein, c'est, là, ils ont choisi un type de tuyau, le fournisseur va leur dire « les gars, faut pas prendre ça. » Si, si, on va le tenter. Celui-là qui a signé le chèque en disant « c'est OK », il y en a un qui l'a fait, oui, autrement. Celui-là, c'est un voyou, oui. Ah, ouais. Ah, il y en a. Oui, ça, je suis d'accord. Et ça, on les aime pas.
C'est déplorable dans un métier à risque, quoi, on va dire.
Il y en a partout. Et si en plus nos financiers sont justement vachement intéressés par embaucher les voyous, hein ?
Parce qu'ils sont malléables.
Bah, on les paye, ils sont prêts à tout. Attends, c'est le mec bien, ça. Ça forche, hein ?
Pour conclure, quel message tu voudrais nous envoyer donc à nous au camp Action Climat
continuez à vous battre, hein, les gars. Continuez à vous battre, à innover, à inventer, à déranger les idées, toutes ces espèces de ce qu'on appelle les valeurs ambiantes. Là, faites confiance à Darty, il n'y a pas de problème. Le système capitaliste pense pour vous, c'est génial. Ben non, apprenez à vous débrouiller vous-même comme vous le faites ici. Mais c'est un bonheur. Continuez comme ça. Ah non, mais je suis enchanté d'être là. Bon, il y a un peu les moustiques. Bon, la crème est moustique, il y a des trucs naturels, on n'est pas obligé d'acheter le prix. Ouais. Pour revenir aux vraies valeurs, quoi. Surtout l'intelligence. Vraiment. L'intelligence, au sens. Savoir rester critique, une critique constructive, critique de cet univers qui nous entoure, quel qu'il soit, sous quelque forme que ce soit. Et prendre le temps d'en discuter. Toujours. La part.
Bah, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir aussi de voir des salariés de Total comme toi venir nous voir. Hein.
Ouais, enfin on n'est pas nombreux. Hein.
Et merci pour le poste à souder. Hein. Qui a ouais, permis de réparer Léon. L'éolienne.
Attends, c'est lui qui a soudé tout. Attends, il a fait un sacré boulot parce que pendant que j'étais. Ouais,
bah, mais bon, sans toi.
Abulé hein. Dans le fauteuil. C'est lui qui l'a posé. Puis il a bien travaillé. Ah, bah, et donc ça l'a fait. Et votre éolienne, c'est génial. Là. Alors, ça aussi, c'est formidable parce que. Cette infrastructure que vous avez montée là. Alors moi je suis pas végétarien, je suis pas, j'ai mes petits trucs à moi aussi. Néanmoins, ce que vous avez construit là, je trouve ça. Finalement, je pouvais douter que ça puisse exister. Et là, de découvrir ce soir, c'est. Je suis épaté. Parce qu'il y a 30 ans, avec le copain, on pouvait faire plein de choses. La nouvelle génération, elle est où ? Bah, elle est là. Bah, continuez, hein. Continuez.
Thank you. tu sais, alors, t'aimes bien le camp Action Climat, c'est ça?
Ouais. Le seul truc que j'aime pas, en fait, c'est... bah, c'est que... en fait, camp Action Climat, c'est contre l'industrie, machin. Mais moi, je suis habituée au Nutella et c'est vraiment pas bon pour la santé, mais c'est très, très bon. Genre, le japonais... Non, le japonais, ça va, c'est bon. Mais le McDo, ouais, le McDo, ça, c'est bon aussi. Mais j'aime bien aussi les pizzas et
bon
japonais.
Au niveau du goût, tu veux dire?
Ouais. Mais peut-être pas pour la santé, mais c'est bon au niveau du goût.
Et ça te dérange pas?
Non, ça me
après,
dérange pas, je m'en fous.
Après, il y a des végétariens aussi. Donc on a...
Ouais, donc on après, on va chez des personnes, on les appelle les punks, et puis ils nous refilent des saucisses.
Ah, bah voilà. Donc il y en a toujours, mais c'est collectivement, dans les restaurations, vous en trouverez pas.
Oui. Ouais, moi je trouve bof la
raison. Beaucoup moins. C'est pour ça. Parce que ça pollue énormément, en fait, de manger de la viande,
ouais,
de,
mais on
ça,
s'en fout,
de ramener du chocolat.
C'est trop bon.
Ouais, mais comme ça, le climat, son objectif, c'est aussi ça.
Ouais.
D'essayer de changer le monde.
Voilà.
Bon, bah c'est cool.
Merci.
À la cuisine. Bon, bah, c'est parti. C'est parti. Journée alimentation, donc je suis à la cuisine. C'est quelle cuisine là où on est?
Cuisine 1.
Ah ouais?
Voilà. Cuisine 1. Qui n'a pas défini son nom encore, son nom de code.
D'accord.
Et qui travaille.
Et donc la cuisine, j'avais lu que c'était aussi pour réduire l'empreinte écologique.
Voilà
ça.
L'idée, les gens qui ont monté la cuisine, en fait, c'est, voilà, c'est une cuisine, ouais, végane, donc 100% végétalienne. On n'utilise aucun produit animaux, voilà, pour les conséquences d'élevage sur le climat, pour faire simple. Et puis pour voilà, le respect du droit des animaux.
D'ailleurs, je vois que tu as un t-shirt.
Voilà, ça c'est un t-shirt de campagne Stop aux animaux dans les labos. C'est une campagne sale, qui s'appelle SAL, voilà, pour s'opposer à l'expérimentation animale, en fait, les tests pratiqués dans les laboratoires pour la mise au point de médicaments, la mise au point de l'évaluation de la toxicité des produits contenus dans les produits quotidiens, et bien, l'armement, les nanotechnologies, tout, voilà, des alternatives existent.
Et donc la question à deux balles, végétalien, est-ce que vous n'avez pas de carence, des trucs,
voilà,
comme ça?
En fait, la plus grosse carence auquel s'expose un végétalien, c'est la vitamine B12. Une carence en vitamine B12 entraîne des effets irréversibles sur la mémoire, entre autres le cerveau, donc il ne faut pas trop rigoler avec ça. Sachant que le corps, en fait, en stock pour à peu près évalué à 4 ans. Donc au bout de 4 ans... on peut avoir recours à des gélules qu'on trouve en magasin bio, des gélules de vitamine B12, mais sinon, voilà, des produits comme la spiruline, les algues, les levures de bière, tous ces compléments, les graines germées, les choses comme ça, où on peut vraiment trouver un petit équilibre, un équilibre en B12, quoi.
Ok. Et...
Sans ça, au niveau. Au niveau des bienfaits pour la santé, quoi, il y a l'ADA, par exemple, de l'ADA, qui est l'agence diététicienne américaine, en fait, qui étudie les comportements alimentaires depuis bientôt 40 ans. Donc, régime carné, régime modéré, on va dire, et les régimes végétariens, a sorti des rapports, voilà, sur c'est le mode alimentaire vraiment le mieux adapté pour une bonne santé. Et là, maintenant, ils ont évalué, puisqu'ils n'avaient pas encore évalué les modes de vie végétaliens, les modes d'alimentation végétalienne, et là des rapports sortent actuellement pour dire que c'est vraiment voilà, une alimentation variée et végétalienne, c'est l'idéal pour l'humain, quoi, finalement.
D'accord. Et sinon, sur la cuisine en soi, donc là, comment vous êtes organisé ici, je sais pas, comment vous êtes organisé? Vous faites cuisiner avant sur comment ici
On a fixé des dates. Il faut à peu près 3 heures de préparation. Tout le monde, les gens des quartiers viennent contribuer à la pluche. C'est ce qui demande beaucoup de temps. Et puis voilà, rencontrer, ça permet d'élaborer des recettes ensemble. Et donc voilà, à plusieurs comme ça, il y a les recettes types, les best-sellers qui ont déjà fait leurs preuves sur d'autres événements. Et puis voilà, après c'est...
Parce que nous on a une cuisine professionnelle, mais la plupart des autres cuisines, elles sont absolument pas habituées à faire ce genre de trucs. Donc c'est pas évident, finalement ça finit souvent en ratatouille, quoi.
Cuisine professionnelle, tu veux dire?
Bah, c'est-à-dire que nous, on fait ça toute l'année, en fait.
Mais là, il y a un échange de savoir-faire qui va se mettre en place, quoi, sur le camp. Les cuisines se vont rencontrer, on discute, voilà, ça permet puis faire en fonction des produits stockés dans l'Economa, qui sont d'une diversité, d'une richesse exceptionnelle. C'est génial, voilà. Bah, on a vraiment des super matières pour bosser, faire de la bonne popote, quoi.
C'est quoi le menu d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a fait des haricots blancs façon mamie, une recette de ma grand-mère, c'est la meilleure de la terre, voire même au-delà. Et une pomme de terre, un petit sauté de pomme de terre avec des protéines de soja et à la sauge. Avec des crudités, du super pain de nos super boulangers.
Bon bah. Et aussi, alors, donc, enfin, en paye, c'est comment que c'est organisé après?
Donc bah, l'idée en fait, c'est que le... Donc, c'est une cuisine toutes les cuisines sont en prix libre. Avec un coût de revient affiché, donc bah, l'intérêt du prix libre, on va peut-être pas le rappeler, enfin c'est voilà, ceux qui ont le plus de moyens peuvent mettre un petit peu plus, pour ceux qui ont moins de moyens. Et ça c'est une partie qui sert à financer quand même pas mal le camp finalement, c'est un point assez clé de rentrée d'argent, si on peut dire ça comme ça, pour financer voilà, bah, toutes les structures, l'avance de matériel qu'il a fallu, et puis bon bah les stocks de nourriture aussi.
Et d'ailleurs les stocks de nourriture, ils viennent en général.
Je pense que c'est une coopérative. Alors je sais pas. Ils viennent du mine, ouais, certainement. Il n'y en avait pas forcément dans cette région. Donc peut-être c'est venu des mines de Nantes.
Je pense que le mieux c'est de demander aux gens qui s'occupent des cuisines.
Là par contre, ouais, là, il y a les référents pour ça, mais je sais pas trop. Sinon, tout ce qui est légumes en bio, bien sûr, viennent des maraîchers alentours, le peu de maraîchers qui est bio autour du Havre, hein, sinon de Rouen, j'ai cru comprendre.
Ok, bah, merci beaucoup. Hein.
Merci.
Moi, je passerai ouais.
Et bon appétit, bien sûr.
Salut.
Bonjour, bah, c'est Benjamin, je viens de Marseille.
Oui.
Et là, ce que je chante.
Alors, moi, c'est la même histoire. Donc, oui.
Et là, ce que je suis en train de faire, c'est juste un carton pour marquer l'état des finances du camp Action Climat.
Mais on est où, là, en fait dans cette tente
Là, on est dans la tente création, en fait.
Création.
Ouais.
En gros, c'est un atelier. On a du matériel.
Exactement, du matériel pour créer tout ce qu'on veut, en fait.
D'accord.
Selon les besoins, etc.
Voilà, génial. Là. Et du coup là donc tu vas faire un affichage de où est-ce qu'on en est au niveau des camps.
Voilà, au niveau des finances. Voilà.
Et tu vas mettre ça où?
Ça sera pour la tente accueil. Il y en a un devant chaque cuisine.
Ouais.
Donc c'est vert, tout va bien. Jaune ça craint. Jaune c'est moyen et rouge ça craint.
D'accord.
Voilà. C'est pour mettre le niveau en fait.
Nickel, merci.
Thank you.
Mais pas besoin de fuir, hein, il peut rester.
Tout le monde s'agace de fuir, c'est le problème.
Mais il faut lui tenir compagnie, justement.
Alors,
c'est quoi alors le système?
Bonjour. C'est un vélo qui génère de l'électricité, comme un groupe électrogène ou n'importe quelle autre génératrice d'électricité. Donc on a repris un vélo qu'on a fixé sur une structure en bois et en métal.
Ouais.
La génératrice, c'est un alternateur de voiture qu'on a type Renault 5 205, petit moteur quoi. Et on a mis une courroie entre la jante du pneu arrière et la poulie de l'alternateur pour faire tourner le générateur. Et du coup, c'est vraiment tout simple. On a rebranché juste tous les câblages comme ils doivent être sur un moteur de voiture quoi. Juste, on a fait aucune modification, on a juste assemblé les pièces. Et après, du coup, là, on a fait un petit tableau de contrôle.
Ouais.
Où on a donc quand on se met à pédaler, il faut mettre sur on pour que ça charge, sinon ouais. Ça charge pas. Et surtout pas oublier de l'enlever après, sinon ça va décharger la batterie au lieu de la recharger.
D'accord.
C'est ça qui est le plus sensible en fait. Faut bien mettre quand on pédale, on met sur on, et dès qu'on a fini de pédaler, on remet sur off parce que sinon ça va décharger la batterie. C'est à cause de l'alternateur, c'est un certain fonctionnement qui a besoin d'être alimenté pour commencer à produire.
Donc, c'est voilà.
Et après, là, on a fait des systèmes de vitesse en fait. Et plus on met de résistance, et plus ça va être difficile à pédaler quoi.
Tu connais bien toi aussi le système?
Je connais pas du tout, non. J'ai déjà essayé.
Et là, l'intérêt du truc, c'est de pouvoir charger les téléphones portables directement sur la batterie 12 volts pour pouvoir ensuite. Les gens qui veulent charger leur téléphone viennent pédaler et, pendant un quart d'heure et ils peuvent charger leur téléphone 2 heures à peu près.
On peut recharger que le téléphone ou on peut recharger d'autres choses c'est pas assez puissant.
On pourrait recharger d'autres choses. Ouais. Samedi soir, on l'a branché avec un petit onduleur, donc ça transforme le 12 volts en 220. On a branché une lumière à économie d'énergie et un radio CD. Quoi.
Un poste radio CD à fond. Combien de lumière
Je sais pas. Là, on avait une lumière de 11 watts et un poste radio et on a mesuré un poste radio et on mesurait quand on pédalait à fond, on produisait deux fois plus que ce qu'on consommait. Donc ça veut dire que si en tout on pédale un quart d'heure, on peut avoir une demi-heure de lumière et de musique.
Génial.
Voilà.
Donc en gros, si on est en manque de sport, on vient là pour recharger les batteries.
S'il n'y a pas de vent et pas de soleil, si c'est la nuit et qu'on a besoin d'un peu d'électricité, on vient là et on pédale.
Génial. Bah, félicitations. Bravo. Je trouve ça excellent. Et vous l'avez fait spécialement pour le camp ou
celui-là il était fait spécialement pour le camp. On avait déjà fait d'autres prototypes avant qui n'avaient pas toujours bien marché. Et il y a une semaine de bricolage avant le camp où il y a eu plein de gens qui avaient tous essayé. On a mis ça en commun.
C'était fait collectivement.
Ça a fonctionné.
Excellent. Bah, bravo, voilà. Merci.
Alors on est avec Eric et Bebe qui vont nous parler. De l'éolien mis en place sur le camp qui nous a permis de faire des projections et tout un tas de choses. Alors
l'éolienne qu'on voit là
déjà l'historique de ce système d'éolienne. Si tu peux la décrire un peu
De ce que j'en sais moi, c'est un mec qui s'appelle Hugh Pigott, que j'ai jamais rencontré personnellement, qui est un Écossais, qui s'est dit c'est pas si compliqué de fabriquer une éolienne et on peut tout auto-construire avec des matériaux de base. Et en plus, on peut apprendre aux gens à le faire pour qu'ils en aient une chacun chez eux, quoi. Du coup, il a travaillé sur plein de modèles et puis il a fini par trouver un modèle qui était assez accessible au niveau bricolage et vraiment satisfaisant au niveau rendement. Et il a commencé à organiser des stages et à rédiger un petit bouquin et à épandre son truc un peu partout. Et il y a du relais maintenant dans beaucoup de pays dans le monde où des assos locales organisent des stages d'éoliennes. Et en France, c'est l'asso Tripalium. Donc il y a un site web, on peut y aller, on voit s'il y a des stages à organiser quelque part. Ou alors on peut les contacter pour organiser soi-même un stage. Et puis on auto-construit en une semaine une éolienne à plusieurs, qui sur le principe est un peu tiré au sort pour ceux qui voudraient la ramener chez eux après, mais a priori chacun repart avec la possibilité d'après après le stage d'en faire une pour lui quoi.
Ouais, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de finalement la transmission technique est abordable et voilà, on peut tout à fait, si on s'y plonge, s'approprier le fait de d'en faire une pour chez soi, comme tu disais, et donc l'autonomie que ça que ça propose. On peut brancher quel type d'appareil dessus?
L'utilisation principale, ça va être plus pour des petits besoins continus, donc la lumière, la musique. On peut brancher des appareils plus puissants, ça dépend pas vraiment de l'éolienne, c'est plus les batteries et l'onduleur qu'on met derrière. C'est assez simple de savoir ce qu'on peut consommer avec cette éolienne, vu que les chiffres ils sont connus et on peut faire les calculs assez facilement pour savoir ce qu'on peut consommer derrière.
C'est des batteries de voiture, c'est un autre type de batterie?
On peut le faire avec des batteries de voiture, même des batteries de récupération, parce que même sur des systèmes solaires ou que ce soit sur l'éolien, j'ai déjà vu fonctionner. Après, ce qui est préconisé, c'est des batteries dites à décharge lente, qui sont plus faites pour le solaire et qui ne sont pas conçues pareil que les batteries de voiture.
Pour le solaire ou l'éolien, mais en fait, les batteries, on ne les auto-construit pas, ça c'est un peu emmerdant. Alors bon, il y a des gens qui recherchent sur différentes pistes d'autres formes de stockage d'électricité. Il y a remonter de l'eau puis la turbiner dans une turbine après, ou l'air comprimé aussi, ou enfin, il y a plein de recherches là-dessus, mais les batteries restent le moyen le plus simple. Aujourd'hui, dans notre bonne vieille putain de société de consommation, on arrive à récupérer des batteries de bagnole pas mal, et qui n'ont pas une durée de vie très longue, mais il y a pas mal de gens qui fonctionnent avec ça. Mais c'est vrai que bon ben faut s'en occuper quoi. C'est pas très confortable dans le sens où il faut en changer parfois tous les ans, tous les deux ans quoi. Et les batteries de charge lente, c'est cher. Ça représente une bonne partie de l'investissement quand on fait son éolienne et qu'on veut son autonomie. C'est un peu le point faible quoi.
Tu peux chiffrer grosso modo l'investissement que ça demande?
Ça va dépendre énormément de tes besoins. En fait, typiquement, on peut étudier deux cas. Il y a le cas assez classique en France maintenant d'une ou deux personnes qui, voire une petite famille de trois personnes en fait, qui vivent par exemple en yourte avec soit une éolienne pas trop grosse, auto-construite par exemple, soit des panneaux solaires. Typiquement, ils vont payer assez cher les matériaux de l'éolienne ou le panneau solaire, mais les batteries, ça va leur coûter... Pour de la musique, charger un peu son téléphone portable, écouter de la lumière l'hiver et ainsi de suite, ils vont en avoir au minimum pour 400-500 euros de batterie quoi. Et peut-être 700-800 euros de reste de matériel pour le produire l'énergie quoi, éolienne ou panneau solaire.
Quand on la regarde, on voit donc un mât en ferraille.
Mais attends, je finis du coup. Parce que l'autre cas, c'est le côté la famille un peu plus grande, quoi. Et un peu plus de confort. C'est-à-dire, peut-être plus une yourte, mais une petite maison. Où on imagine qu'on va mettre une machine à laver ou un frigo, en plus. Et là, ça, c'est des gros consommateurs. La machine à laver, souvent, comme c'est un usage ponctuel, comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être intéressant d'avoir un petit groupe électrogène ou d'avoir. À un moment, un surplus d'énergie en fait qui permet d'utiliser la machine et de gérer ça. Mais le frigo, c'est une consommation continue. Et du coup, là, il faut doubler les prix que j'ai annoncé juste avant, quoi. En gros. Et pareil pour ton éolienne, tu la dimensionnes en fait en fonction de ces besoins-là. C'est vrai que celle que tu vois qui est assez grande là, qui fait 3,60 m de diamètre, elle va être plus effectivement dimensionnée pour alimenter un frigo avec un bon parc batterie derrière. Et
3,60 m de diamètre, c'est pas les pales?
C'est l'hélice, ouais.
Donc c'est des pales d'un mètre 80 du coup. Et ce qui compte le plus pour une éolienne, c'est la surface de l'hélice. Donc quand on tout l'air brassé par l'hélice. Et là, du coup, ça fait 3,60 m de diamètre. Et...
Par contre, l'autre éolienne, la tienne, elle est.
Plus dimensionnée pour la première utilisation, du coup. Elle fait 1,20 m de diamètre. Donc du coup. Un diamètre 3 fois inférieur, donc c'est proportionnel à la surface, ça fait une production 9 fois inférieure. C'est plus pour juste de l'éclairage, de la lumière, comme ça se passe sur le camp.
D'ailleurs, je sais pas, t'es pas obligé de le dire, mais moi ça m'a coûté en matériaux en fait tout ça là, sans parler des batteries, donc du coup ça m'a coûté, on va dire, 1100-1200 euros quoi.
Ouais.
Et toi, j'imagine 500,
quand même beaucoup moins. Ouais, je dirais à 350 de matériaux pour l'éolienne, vraiment la partie éolienne. Et bon, après, il reste le mât, les haubans. Ça, vu que c'est un mât de 5 mètres uniquement, donc c'est beaucoup moins. Ça nécessite beaucoup moins d'énergie pour la montée, beaucoup moins de, une structure beaucoup moins importante. Et du coup, j'en ai eu pour 150 euros. Ouais. Donc ça fait un budget de 500 euros.
Et toi, sur la tienne qui est plus petite, donc toi, tu peux brancher quoi dessus?
Bah là, pour l'instant, là, elle fonctionne, elle alimente la lumière, elle alimente tout l'accueil du camp, donc la lumière, le rechargement de certains portables, il n'y a pas de musique, donc là, ça fonctionne très bien. Après, vu que c'est une éolienne que j'ai que depuis 4 mois, où du coup, j'ai fait un stage et où je suis reparti avec l'éolienne.
T'as été tiré au sort, alors?
Voilà, j'ai été tiré au sort, comme Eric.
Super, les gars. Ouais.
Elle n'est pas forcément complètement opérationnelle et du coup je ne sais pas exactement ce qu'elle produit en réalité.
Oui, après on auto-construit le truc et puis on apprend à le connaître quoi. C'est un peu c'est un petit bébé quoi, on apprend à le découvrir au fur et à mesure. Moi j'en suis à quelques jours, quelques semaines maintenant d'avoir fonctionné en tout depuis qu'elle est construite. Et j'apprends aussi à la connaître.
T'es venu à ça plus par le solaire avant? T'es ouais. Plus calé sur le solaire?
En plus, oui, c'est vrai. J'ai vraiment commencé par le solaire. Le solaire, parce que, en fait, tout simplement parce que j'avais plein de potes qui s'installaient en yourte et que je savais plus ou moins comment monter ça et que du coup, j'aurais installé des petites installations faciles. Ils étaient prêts à investir là-dedans et j'avais eu des prix à un moment et tout. Du coup, j'ai monté, je sais pas combien de stations solaires pour plein de potes. En caravane, on habite à Légy quoi. Et je trouvais que c'était une solution facile quoi. Mais la différence, l'éolienne, c'est vraiment pas pareil. Il y a un côté esthétique qui est vraiment non négligeable quoi. C'est-à-dire que c'est une présence permanente, c'est quelque chose dont tu es fier, donc que tu es à côté de chez toi et que tu regardes tourner, que tu. Qui a sa vie propre aussi, c'est pas aussi froid qu'un panneau solaire, on va dire, au niveau émotionnellement parlant. Et si tu l'as auto-construite en plus, bon ben voilà, il y a un rapport pratiquement paternel avec le truc, quoi, c'est hallucinant. Quoi.
Ouais, je suis assez d'accord, même si ça fait pas longtemps que je l'ai. Voilà, la regarder tourner, voir comment elle se comporte par rapport au vent. Là, je sais par exemple que là, elle n'est pas à l'optimum de sa production. Donc,
Si vous voulez plein d'infos, vous pouvez les trouver au www.campclimat.org.
Thank you.